Décryptage, Aurélien Devernoy.
La patience de l'Équateur a atteint ses limites. Il a installé des équipements électroniques de brouillage interdits. Il a bloqué les caméras de surveillance de la représentation équatorienne à Londres. Il a accédé sans permission à des archives de sécurité de notre ambassade. Mon gouvernement n'agit pas sous la menace. L'Équateur respecte le droit international et se soucie des intérêts des Équatoriens.
Voilà un extrait du discours du président équatorien Lénine Moreno pour justifier la levée de l'asile accordée depuis 7 ans à Julian Assange dans l'ambassade du pays en Grande-Bretagne. Conséquence immédiate, l'arrestation par la police britannique du fondateur de Wikileaks et son incarcération, pure violation de sa liberté conditionnelle. L'Australien s'étant réfugié clandestinement dans la représentation diplomatique équatorienne en 2012. Mais Julian Assange fait face à d'autres poursuites et pourrait notamment être extradé aux États-Unis. Comment tout a basculé pour celui qui, pendant des années, et pour certains encore aujourd'hui, a été adulé pour son travail de lanceur d'alerte et surtout, quel avenir pour lui ? On en parle ce soir dans Décryptage. Bonsoir Olivier Tesquet.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire culturel Télérama en charge de l'actualité numérique et auteur avec Alexis Cavaillès de l'ouvrage Comprendre Wikileaks aux éditions Max Milo. Alors ce qui s'est passé la semaine dernière, cette arrestation très médiatisée et très contestée de Julian Assange au sein même de l'ambassade équatorienne à Londres, est-ce que cette arrestation était prévisible ?
Alors il est effectivement utile de commencer par rappeler que l'arrestation s'est faite dans l'enceinte de l'ambassade, c'est-à-dire que les autorités équatoriennes ont laissé la police britannique rentrer. Ce qui tout de suite nous a donné un indice, et l'indice c'était que les autorités équatoriennes avaient lâché Julian Assange. Alors c'est qu'une demi-surprise, parce qu'en fait, ça fait quand même de longs mois que sa situation est de plus en plus précaire, notamment depuis l'élection de Lénine Moreno en avril de l'année dernière, où clairement on a senti il était moins conciliant que son prédécesseur Rafael Correa. Tout de suite, il a clairement affirmé que Julian Assange était quand même un peu un caillou dans la chaussure. Et en regardant un peu la chronologie, on se rend compte que quelques semaines après l'élection de Lénine Moreno, vous avez Jeff Sessions, qui était encore le procureur général des États-Unis de Donald Trump à l'époque, qui répète que l'arrestation de Julian Assange est une priorité. On voit que les planètes commencent à s'aligner. La tension n'a cessé de monter dans les mois qui ont suivi. L'Équateur a coupé la connexion Internet d'Assange. Alors c'est pour ça que moi, quand j'entends Lénine Moreno l'accuser d'avoir monté une espèce de centre d'espionnage clandestin dans l'enceinte de l'ambassade, quand on sait à quel point ses allées et venues, il n'allait pas bien loin, hein, mais il était surveillé en permanence.
Oui, il restait dans une pièce quasiment.
Il n'a pas vu la lumière du jour pendant des années. Le Royaume-Uni a dépensé des sommes folles, plus de 10 millions de livres, en 3 ans, sur les 3 premières années de son exil forcé, on va dire, en surveillance physique et technologique. Donc j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu développer ce genre de choses, mais ça montre bien qu'effectivement, au fil des mois, comme ça, la tension a continué de monter jusqu'à arriver à ce paroxysme qui est donc cette exfiltration, on va dire, forcée de l'ambassade d'Équateur.
Alors, comment surtout Julian Assange en est arrivé là ? Parce que finalement, quand on se rappelle de lui à partir de 2006, quand il commence à apparaître un petit peu dans les médias, quand il fonde Wikileaks et qu'il commence à faire des révélations, surtout à partir de 2010, quand il y a ces fameuses révélations sur l'armée américaine en Irak, c'était quelqu'un qui était très médiatisé, avec un fort potentiel de sympathie. Et puis, on a l'impression que tout s'est écroulé autour de lui en quelques mois, en quelques années seulement.
Alors c'est vrai que quand WikiLeaks arrive vraiment comme ça sur les radars des grands médias généralistes, c'est notamment à l'occasion des collaborations avec ces grands médias généralistes. Hein. Faut se souvenir que les fuites en 2010, c'est avec le New York Times, c'est avec le Guardian, c'est avec le Monde, c'est avec le Spiegel. On notera au passage que Assange s'est fâché avec à peu près tous ces titres-là, qui en fait l'ont souvent traité comme une source, notamment au New York Times. Hein. Bill Keller, l'ancien patron du journal, en parlait et disait qu'il avait du mal à le voir comme autre chose qu'une source, là où Assange s'est toujours vu, présenté comme un rédacteur en chef, comme un journaliste d'un média qui est Wikileaks et qui, objectivement, a fait des émules. C'est-à-dire que on parle de lanceur d'alerte aujourd'hui, c'est entré dans le vocabulaire courant, en partie, grâce à Wikileaks. Les journalistes d'investigation ont rehaussé le niveau de sécurité de leur communication, ont développé de nouvelles méthodes aussi grâce à Wikileaks. Le data journalisme a pris de l'ampleur et de l'importance avec Wikileaks. Donc il faut les créditer et créditer Assange de ça. Après, il y a ce point de bascule, effectivement, qui est l'année 2016. Et l'année 2016, en fait, c'est le moment où vous avez un groupe de travail sur les détentions arbitraires de l'ONU qui affirme que son statut dans l'ambassade d'Équateur est considéré comme une détention arbitraire. Donc à ce moment-là, moi je me souviens, on l'entend intervenir dans la matinale sur France Inter, à l'époque c'est encore Patrick Cohen, et on a vraiment l'impression que Julian Assange va sortir dans l'après-midi. On se rend assez vite compte que cette décision de l'ONU qui est pas coercitive, ben les États concernés, et notamment la Grande-Bretagne et la Suède, qui veulent tous les deux qu'ils sortent de l'ambassade, on va dire...
Oui, qui veulent le juger, tout simplement.
Qui veulent le juger,
poursuivi dans ces deux pays.
Il est poursuivi dans ces deux pays-là. Donc à ce moment-là, il s'assoit un peu sur cette décision. Et Assange se rend bien compte qu'il est un peu dans une impasse, qu'il a épuisé un peu tous les recours,
qu'il a épuisé un peu tous ses soutiens,
puis qu'il a un peu épuisé aussi lui-même, physiquement, nerveusement, psychologiquement. Il y a quand même des médecins qui sont allés le voir en 2018 et qui ont dit que son état physique et psychologique était quand même assez précaire du fait des conditions de vie dans lesquelles il est. Et je me souviens aussi, à un moment, il donne une interview à Paris Match la même année. Il dit que finalement le Brexit serait pas si mal parce que peut-être qu'avec le Brexit, le mandat d'arrêt qui pèse contre lui sera levé, ou peut-être que finalement la stratégie du chaos pourrait lui permettre de trouver une forme d'échappatoire. Et il y a la présidentielle américaine, qui est le vrai point de bascule. Il faut savoir, il faut le rappeler, que Julian Assange nourrit une haine viscérale profonde contre Hillary Clinton, qu'il juge en partie responsable de sa situation, parce qu'elle était secrétaire d'État aux États-Unis lors des révélations des 250 000 télégrammes diplomatiques du Cablegate, comme on l'avait appelé à l'époque, qui était sorti donc en 2010. C'est elle qui avait déclaré que, en gros, c'était un fou furieux, inconscient, qui mettait en danger la communauté internationale, qu'il fallait absolument l'arrêter. Donc il estime qu'elle est en partie responsable de sa situation et qu'elle incarne tout ce qu'il combat. Et donc, il se met en tête que Hillary Clinton, présidente des États-Unis, c'est vraiment pas possible. D'où cette impression qu'on a eue, et qu'on n'est pas les seuls à avoir eue, hein, parce qu'il y a eu des enquêtes jusqu'au procureur Mueller qui a enquêté sur l'ingérence russe, qui s'est quand même intéressé au cas d'Assange, parce que au mois de juillet 2016, donc quelques mois avant l'élection présidentielle, on a la publication de dizaines de milliers de mails du comité démocrate américain, qui montre notamment que la candidature de Bernie Sanders a été largement sabotée, on va dire. Et quelques semaines plus tard, on a les emails du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. À ce moment-là, on commence à se dire, oula, ça commence à charger la mule, et puis surtout, ça commence à avoir un vrai impact sur le scrutin, et dans le dernier mois...
Et Julian Assange le revendique.
C'est-à-dire que dans le dernier mois qui précède justement ce scrutin présidentiel, il annonce des révélations toutes les semaines sur Hillary Clinton, et donc vous avez... toute la Trumposphère, on va dire, qui était la première à vouloir mettre sa tête au bout d'une pique quelques années plus tôt. Enfin, je veux dire, sur Fox News, on appelait à le descendre avec un drone. Et qu'il a, lui, tresse des louanges comme si c'était le sauveur de l'humanité, précisément parce que tout à coup, c'est un allié de circonstances qui va mettre le dernier clou dans le cercueil d'Hillary Clinton. C'est le moment quand même où Donald Trump fait ses meetings qu'il ouvre tous par cette fameuse phrase « Lock her up, enfermez-la ». Donc, ça donne du grain à moudre.
Et il dit aussi « I love WikiLeaks ».
Voilà, il dit « I love Oh boy, I love reading this WikiLeaks. » 4 jours avant son élection. Aujourd'hui, Donald Trump, quand on lui demande ce qu'il pense de l'arrestation de Julian Assange, il dit, vous savez, WikiLeaks, je sais pas grand chose. Donc on voit bien qu'il y a aussi une assez faible rétribution de cet engagement anti-Clinton pendant la campagne. Ce qui veut pas dire que WikiLeaks a été un agent russe, comme ça a pu être sous-entendu à certains moments, notamment parce que les emails du Parti démocrate avaient été piratés par le renseignement militaire russe, et d'ailleurs des officiers ont été inculpés pour ça par Mueller dans le cadre de son enquête. Mais il y avait clairement un biais, on va dire, anti-Clinton, même s'il s'en est défendu, hein, dans les quelques jours là aussi qui ont précédé le scrutin. WikiLeaks a publié un communiqué dans lequel Assange se félicitait d'avoir porté tous ces éléments à la connaissance du public, tout en disant que lui, son rôle, c'était pas de se positionner en faveur de tel ou tel candidat, et que finalement chacun se faisait sa propre idée. Mais en tout cas, l'impression qu'il a été l'idiot utile de cette élection-là, avec le résultat qu'on connaît, lui a causé beaucoup de tort. Il lui a causé beaucoup de tort chez des soutiens qui étaient des soutiens historiques, qui effectivement ont pas trop compris comment on est passé du militant de la transparence révélant des actes de torture, révélant de la corruption, révélant des crimes de guerre, comme on avait pu le voir avec le premier coup d'éclat de WikiLeaks, qui est cette vidéo qui montre quand même un hélicoptère Apache en train de commettre une bavure en Irak.
Oui, et tuer deux journalistes de Reuters.
Et tuer 12 personnes, dont deux journalistes de Reuters. Et comment on en est passé de ça à WikiLeaks, qui est une espèce de pseudo-agence de renseignement au service d'une puissance étrangère. Ce qui est très exagéré, mais ce qui a été la perception pendant des mois.
Mais est-ce que c'est pas justement le résultat d'ambiguïté qui était plus ancienne chez Julian Assange? Le Monde, par exemple, ce week-end, publie un éditorial où il explique que finalement, il a cessé, le journal a cessé assez rapidement sa collaboration avec Julian Assange dès 2011, parce que justement, Julian Assange avait fait le choix de publier sur WikiLeaks l'intégralité des documents sur l'armée américaine qu'ils avaient, des télégrammes diplomatiques, etc., sans biffer les noms des personnes que cela aurait pu être qui auraient pu être mises en danger, et notamment des opposants dans certains pays, dans certaines dictatures.
Alors c'est effectivement un reproche qui lui a été adressé de nombreuses fois. Je me souviens qu'il y a quelques mois, quand on a eu les Panama Papers, Julian Assange s'est ému que finalement les révélations ne soient que partielles, et lui il est partisan du le dump, quoi. C'est-à-dire il faut tout mettre sur la place publique. Et effectivement, on a pu faire le reproche à de nombreuses reprises, à WikiLeaks, et à lui en particulier, d'avoir publié des documents dans leur intégralité, sans les expurger de certaines informations. Alors le fait que notamment des informateurs dans certains pays ont pu être mis en danger, c'est extrêmement difficile à calculer. Il y a quelques jours, BuzzFeed a réussi à obtenir aux États-Unis, via une requête administrative, une espèce d'étude d'impact menée par les autorités américaines pour mesurer justement les dégâts, on va dire, des révélations de WikiLeaks. Et tout ça n'était pas finalement très clair, de savoir si, oui ou non, ça avait tué tel ou tel individu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une vraie divergence de stratégie entre les médias traditionnels qui se retrouvaient à collaborer avec lui, mais qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec ce type d'organisation. C'était une première, personne n'avait jamais vu un WikiLeaks avant WikiLeaks. Donc c'était déjà un peu compliqué pour eux, culturellement parlant. Et surtout, l'objectif n'était pas le même. C'est-à-dire que les médias veulent publier des articles sourcés, circonstanciés, quand ils le souhaitent. Là où Julian Assange veut publier des bases de données dans leur intégralité quand il le souhaite aussi. Et cet agenda-là n'est pas toujours très conciliable.
Et alors justement, on en vient à cette question. Est-ce qu'on peut considérer Julian Assange comme un journaliste? Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions après de statut. D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'avocate de Julian Assange, Jennifer Robinson, et également le rédacteur en chef de WikiLeaks qui s'appelle Christine Raffenson.
Cela crée un dangereux précédent pour tous les médias. Cela signifie que n'importe quel journaliste peut être extradé et être poursuivi aux États-Unis pour avoir publié des informations véridiques sur les États-Unis.
C'est une sombre journée pour le journalisme. On évoque une conspiration, mais c'est une conspiration pour commettre du journalisme. Il faut que cela s'arrête et nous demandons à tout le monde de soutenir Julian Assange dans son combat contre cette extradition.
Voilà, propos recueillis par notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix. Olivier Tesquet, c'est vrai que c'est présenté sans ambiguïté, là en l'occurrence par les défenseurs de Julian Assange. C'est un journaliste, et donc à ce titre-là, il devrait être protégé de toute procédure d'extradition dans le cadre, eh bien, tout simplement, de la liberté de la presse. Or, on a l'impression que, notamment du point de vue des États qui sont concernés, la vision est quelque peu différente.
Alors, c'est là où la chronologie est très importante. Alors, je ferai juste quand même une petite incise pour dire qu'il y a aussi une vraie question pour le coup. C'est-à-dire que Julian Assange est entré dans l'ambassade d'Équateur pour échapper à une audition dans une affaire de viol en Suède. Alors après, les autorités suédoises ont pas mis beaucoup d'entrain à l'auditionner. Ils voulaient absolument qu'il vienne sur place alors qu'ils auraient pu le faire à distance. Donc lui a toujours eu la crainte que les autorités suédoises se servent de ça pour le livrer ensuite aux États-Unis, ce qui a motivé son entrée dans l'ambassade en avril 2012. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas, et légitimement, pourquoi il ne veut pas répondre de cette affaire-là. Donc voilà pour la petite incise. Pour le reste, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les faits qui sont retenus contre Julian Assange, c'est pas des faits qui concernent justement la période un peu trouble là, dont on parlait des dernières années. C'est les faits de 2010-2011. C'est les révélations sur les documents fournis par Chelsea Manning, qui est quand même retournée en prison depuis le début du mois de mars parce qu'elle refuse de témoigner devant le grand jury sans un avocat dans cette affaire-là, sachant qu'elle a quand même déjà fait 7 ans de prison, dont un paquet d'années à l'isolement dans des conditions déplorables, et qu'elle ne doit sa liberté qu'à une grâce
de Barack Obama, soudaine
qu'inattendue de Barack Obama en 2017. Donc il faut bien se souvenir que c'est dans ce contexte-là. Aujourd'hui, il y a une seule charge qui est retenue contre lui, qui est cette espèce de conspiration en vue de commettre un crime informatique, parce qu'il a demandé à Chelsea Manning de récupérer des documents auxquels elle avait accès quand elle était stationnée au Koweït. Sauf que, effectivement, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette activité en 2010-2011, on est quand même dans une activité qui s'apparente beaucoup à du journalisme, et je trouve que on aurait tort, nous en tant que journalistes, mais même le public dans son ensemble, de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain en se disant « Oulala, Julian Assange, il est vraiment infréquentable », sans prendre le temps de mesurer les impacts que pourrait avoir une inculpation aux États-Unis. Et là, on parle de ce chef d'accusation, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. C'est que j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, Julian Assange va être extradé aux États-Unis en risquant seulement 5 ans de prison.
Oui, parce qu'il risque de se voir inculpé dans un cas d'espionnage. Et là, voilà, c'est des peines extrêmement lourdes.
Le grand jury aux États-Unis, qui se réunit secrètement depuis 2010, qui a auditionné tout un paquet de gens, qui a récupéré tout un tas d'informations, la feuille de route, entre guillemets, c'était inculpé Julian Assange au nom de l'Espionnage Act, qui est un texte centenaire aux États-Unis, qui punit les activités anti-américaines, qui est utilisé systématiquement contre les lanceurs d'alerte depuis des années, qui est le texte qui a envoyé les œufs pour Rosenberg sur la chaise électrique pendant la guerre froide. Donc, on parle d'autre chose que 5 ans de prison. On parle pas de la peine de mort, probablement, parce que de toute façon, ça compliquerait son extradition, mais on parle de choses beaucoup plus sérieuses. Et à partir du moment où on inculpe Julian Assange sur des charges comme celle-là, ce qui aujourd'hui est du domaine du vraisemblable, se pose la question de la place de la presse dans ce champ-là. C'est-à-dire que la presse pourrait tout à fait être poursuivie pour recel. Je vais citer un exemple très concret. Ces dernières années, un journaliste qui travaillait au New York Times et qui n'y travaille plus, qui s'appelle James Risen, a été pris pour cible par les autorités américaines et par la justice qui voulait l'obliger à dévoiler le nom de ses sources dans une affaire qui intéressait la sécurité nationale, qui était l'opération Merlin, qui était une opération en Iran. Et parce que selon les autorités américaines, ça mettait en danger la sécurité nationale, il fallait absolument que Risen donne le nom de ça ou ses sources. Et à un moment, on a vraiment fait peser contre lui le risque d'une condamnation qui pouvait l'envoyer en prison. Qu'est-ce qui, demain, ou aujourd'hui, empêchera les autorités américaines de poursuivre un journal sur des motifs qui finalement sont pas si différents de ceux qui aujourd'hui sont retenus contre Julian Assange.
Alors justement, Julian Assange a quand même encore quelques supporters qui essaient d'attirer l'attention sur cette situation. Il y en avait quelques dizaines réunis devant le journal Le Monde justement le week-end dernier. Je vous propose de les écouter.
Ce qu'il vient de faire Lenny Moreno, Équateur entier, il n'est pas d'accord. On est tellement déçus. On demande immédiatement la libération de Julian Assange. C'est une personne qui a lutté avec nous. Et c'est une personne qui mérite des honneurs. Et une personne qui mérite l'amour de tout l'Équateur.
Il va falloir y aller fort. Il va falloir faire abstraction de nos divergences politiques. Il va falloir qu'on y aille tous ensemble, tous unis, pour défendre Julian Assange. C'est son seul espoir. Cette affaire va continuer et va, j'espère, mobiliser de plus en plus de gens parce qu'il y a un véritable enjeu derrière. C'est le droit de publier la vérité. Est-ce que dénoncer un crime peut devenir un jour un crime? On dirait que oui.
Ben moi, je pense que la France s'honorerait à l'accueillir et à lui donner l'asile politique. D'ailleurs, le président Hollande ne l'avait pas fait, d'ailleurs, en son temps. Et je trouve que voilà, la France s'honorerait à faire ça. Voilà, ce serait vraiment un signe important.
Olivier Tesquet, très rapidement, la France devrait-elle donner l'asile politique à Julian Assange?
Alors, elle s'honorerait à le faire, mais je doute très fort qu'elle le fasse. Hein, comme le rappelait la dame qui parlait à la fin du sujet, en 2015, il y a eu une lettre ouverte qui n'était pas tout à fait une demande d'asile formelle qui a été déposée. L'Élysée y a répondu en moins d'une heure en disant « c'est hors de question ». C'est pas recevable, donc je crois absolument pas, malheureusement, à la possibilité que la France accorde l'asile à Julian Assange.
Merci beaucoup Olivier Tesquet, je rappelle que vous êtes journaliste à Télérama et auteur de l'ouvrage Comprendre Wikileaks. Merci également à Éléonore Krenik qui a préparé cette émission et Hélène Avril à la réalisation. Excellente soirée à l'écoute de RFI.